Bonjour Boris Cassel.
Bonjour.
C'est un logo et une note qui figurent sur de nombreux appareils, notamment électroménagers. L'indice de réparabilité existe depuis maintenant 6 ans, mais est-il fiable? Et là, vous avez comme un petit doute.
On a eu quand même un petit doute parce qu'en fait, cet indice de réparabilité, il est noté, il est donné par les fabricants sous leur propre contrôle. On a voulu savoir si effectivement il correspondait à la réalité, si les appareils qui avaient le meilleur indice de réparabilité étaient les appareils les plus facilement réparables. Le point à prendre en compte quand même, c'est de bien comprendre que cet indice de réparabilité, on en tient de plus en plus compte en magasin lorsqu'on fait ses achats parce qu'il est de plus en plus présent et certains réseaux même ne vendent plus les appareils les moins bien notés.
Et en ce qui concerne cet indice et cette note, on peut rappeler le principe?
Cet indice se présente sous la forme d'un petit logo qui est apposé directement en magasin sur le produit. C'est une note qui va de 1,5 en gros à 9,9 on va dire pour les meilleurs d'entre eux et qui est logo sur lequel on peut avoir aussi une couleur qui apparaît, rouge étant les moins bien notés, et vert les appareils qui théoriquement sont les mieux réparables.
En gros, c'est pour réparer plutôt que jeter, c'était ça l'ambition.
L'ambition de départ, ça a été créé. Donc l'indice de réparabilité a été créé par une loi de 2020, qui est la loi AGEC, qui voulait lutter contre le gaspillage. L'objectif de l'indice de réparabilité, c'était de nous inciter à acheter des produits qui sont plus réparables, donc on peut faire durer dans le temps, donc c'est mieux pour la planète, et aussi inciter les industriels justement à nous proposer des produits de plus en plus faciles à bricoler en cas de souci.
Et vous l'avez dit, Boris, ce sont les constructeurs eux-mêmes qui déterminent l'indice de réparabilité.
Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que lorsque l'on met sur le marché un produit, en l'occurrence des lave-vaisselle par exemple, le fabricant a une liste de 10 critères qu'il va remplir lui-même selon des règles qui ont été fixées pour l'ensemble de la profession. Donc tous les fabricants ont les mêmes critères. Cependant, il y a un petit souci avec ces critères, c'est que l'essentiel de ces critères, bizarrement, ne concerne pas des éléments qui sont en lien direct avec la réparation de la machine. Je m'explique. L'essentiel de la note dépend du prix des pièces détachées, de l'existence d'une documentation technique, de l'existence d'un service après-vente, enfin des choses qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas en lien direct avec la réparation du produit. Concrètement, ils étudient quand même la démontabilité du produit, une forme de réparation du produit, et ça compte pour seulement 20% de la note finale. On trouve aussi assez bizarre, justement, que la réparabilité, ces 20% de notes, soient évaluées uniquement sur la démontabilité du produit, c'est-à-dire qu'ils ont une liste de 5 pièces à enlever de leur lave-vaisselle, par exemple, qu'ils doivent démonter et ils ne doivent jamais dire si c'est facile à remonter. Ce qui peut poser un petit souci, puisque quand vous démontez votre lave-vaisselle qui a une panne, vous aimeriez bien le remplacer et que ce soit aussi facile de remettre une pièce pour que ça refonctionne. En fait, c'est un peu le but quand même.
Et vous avez testé cet indice de réparabilité sur 8 lave-vaisselle, ça donne quoi?
Alors on s'est dit qu'on allait un petit peu plus loin que l'indice de réparabilité, c'est-à-dire qu'on allait faire ce qui aurait dû être fait, c'est de se mettre à la place d'un consommateur lambda qui fait face à une machine en panne. C'est-à-dire que la première étape quand vous avez une machine en panne, c'est de comprendre ce qui se passe. Et donc on a d'abord, ce que ne fait pas l'indice de réparabilité, nous on a d'abord évalué la communication des informations par la machine. Ce sont les fameux codes d'erreur. Ce qu'on a constaté, c'est que dans 75% des cas, rien qu'à cette première étape-là qui est essentielle, dans 75% des cas, les codes d'erreur ne nous permettent pas de savoir quelle est la panne en fait. C'est très symptomatique. Donc, il reste 25% des cas où la machine vous dit exactement quel est le problème. Et dans ce cas-là, on a étudié vraiment la réparabilité, à la fois la démontabilité de l'appareil, on a démonté l'appareil et on a essayé de remettre des pièces de rechange. C'était assez compliqué et on est arrivé à la conclusion que l'indice de réparabilité qui nous était présenté en magasin correspondait pas à ce que nous avions considéré comme étant la facilité de réparation de cet appareil. Le souci avec cet indice, c'est qu'on a l'impression qu'un appareil qui a une bonne note sera facilement réparable par monsieur et madame tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas, et en revanche, ça donne une bonne indication sur le fait de pouvoir ou non faire réparer cet appareil par un professionnel.
L'indice de réparabilité, que vaut-il vraiment? Vous vous êtes posé la question et vous y répondez dans le magazine Que choisir de ce mois de mai. Merci Boris Cassel.
Merci.